Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, soyez saints, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans le chapitre 1er de Saint Jean, au verset 26 à 28. Je n'ai pas le temps de terminer la dernière fois, donc je vais le faire maintenant. À la page 15, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église, les 5 premiers chapitres de Saint Jean. Alors, je vous préviens tout de suite, il risque d'y avoir parfois des petites erreurs de pagination entre les pages que j'annonce pendant le cours et la page qui sera dans le polycopier définitif à la fin de chaque série de 5 chapitres, quand j'ai terminé le 5e chapitre. Par exemple, je vais changer le polycopier que j'ai mis actuellement déjà sur le site d'Anne-Marie. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure des cours, je découvre d'autres fautes, des fautes de frappe, parfois des fautes de grammaire. Je les corrige au fur et à mesure. Et quand j'ai terminé le commentaire sur les 5 premiers chapitres, je change le polycopier et je mets un nouveau polycopier avec le même texte, mais avec les corrections. Mais le problème, c'est que j'ai fait ce premier polycopier avec un premier ordinateur qui m'a lâché il y a quelques mois, qui était sous Windows. Maintenant, j'ai un autre ordinateur, j'ai dû changer, parce que le premier m'avait lâché, malheureusement. Ça m'a coûté une fortune, mais enfin bon, il faut bien du bon matériel pour pouvoir travailler. Et j'ai actuellement un ordinateur qui travaille sous Linux. Et Linux ne reconnaît pas toutes les polices que j'utilisais pour police d'écriture, que j'utilisais pour le polycopier qui était fait avec Windows. Et donc, il me change les polices et du coup, ça me change les lignes. Ça me change les paginations. J'essaie de rattraper quand je peux, mais je peux pas toujours. Et donc, il y aura quelques petites erreurs, parfois de quelques lignes, parfois d'une demi-page. Mais tout le texte est là. Donc, au niveau du texte, il n'y a pas de changement de texte. Alors, nous en sommes à la page 15, au milieu de la page. Je vous relis les 3 versets que nous commentons. Jean, c'est Jean-Baptiste, lui leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi, qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc on voit ici l'extraordinaire humilité de Saint Jean-Baptiste. « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » N'importe quel prédicateur très connu, comme l'était Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, aurait pu voir des mauvais yeux notre Seigneur Jésus-Christ qui avait commencé à venir lui faire de l'ombre. Mais non, Saint Jean-Baptiste va bien l'expliquer. Il faut qu'il croie ce que je diminue. L'humilité de Saint Jean-Baptiste permet l'obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi amène à la véritable charité. Ce que disent les pères, on est au milieu du... La page 15. Béthanie signifie maison d'obéissance, ce qui nous apprend que c'est par l'obéissance de la foi que tous les hommes doivent parvenir au baptême. Je ne sais pas si c'est le même Béthanie où habitaient Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint Lazare. Je ne connais pas suffisamment la géographie de la Palestine pour savoir si c'est le même Béthanie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le même. En tout cas, Béthanie signifie bien la maison d'obéissance, pour insister justement sur cette obéissance de la foi qui permet d'arriver à la charité. Sans l'obéissance de la foi, on perd la charité. Donc l'obéissance de la foi, c'est quelque chose de très important à comprendre. L'obéissance de la foi nous permet d'accepter l'intégralité de la foi catholique. N'oublions pas qu'on ne peut pas diviser en rondelles la foi catholique. C'est tout ou rien. Si je nie un seul point de la foi catholique, un seul dogme de la foi catholique, je ne peux pas dire que j'ai une foi diminuée, je n'ai plus la foi du tout. Pourquoi ? Parce que si je nie volontairement, en toute connaissance de cause, un seul point de la foi catholique, eh bien, je considère que Dieu s'est trompé sur ce point. Donc, il nous a menti sur un point. Que Dieu nous ait menti sur un point ou que Dieu nous ait menti sur 2000 points, la conclusion sera la même. Si Dieu a menti, même sur une toute petite chose, il n'est plus Dieu parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc, si Dieu a menti, il n'est pas Dieu. Pourquoi l'intégralité de la foi catholique est absolument vitale pour pouvoir avoir la charité? La charité ne peut pas s'exercer si la foi n'est pas enseignée et reçue et acceptée et crue dans son intégralité. J'ai donné il y a peu de temps dans un sermon, je fais un sermon demain je crois, je prêche, j'enregistre ce cours, le 6 novembre, demain, je vais en parler un petit peu en sermon. J'explique que, imaginez quelqu'un qui nie simplement les indulgences. Il n'accepte pas les indulgences en trouvant comme excuse que ça a été le point de départ de l'hérésie protestante, que c'est ce qui a permis à Martin Luther de commencer sa révolte ouverte contre la papauté, et que donc lui n'accepte pas, imaginez un catholique qui n'accepte pas les indulgences. Il accepte tout le reste, sauf les indulgences. Est-ce qu'il a la foi? Non. Est-ce qu'il pourrait dire, j'ai la foi à 95%? Non. Et ça va très loin. Parce qu'on n'a pas le droit, un prêtre n'a pas le droit de donner l'absolution à quelqu'un qui n'a pas la foi complète. Donc si je sais qu'au confessionnal, quelqu'un qui se confesse au confessionnal ne croit pas aux indulgences, je vais essayer de lui enseigner la doctrine sur le sujet. Et s'il refuse d'accepter la foi catholique sur les indulgences, je ne peux pas lui donner l'absolution. Et si j'ignore que cette personne volontairement, en toute connaissance de cause, refuse les indulgences, n'accepte pas le principe des indulgences, même si je lui donne l'absolution, son absolution sera invalide. Pourquoi ? Parce qu'il nie, il est un hérétique en fait, il nie l'intégralité de la foi catholique. C'est quelque chose de très, très important à comprendre. Et si je sais que cette personne nie un point la foi catholique et je lui donne l'absolution quand même, c'est moi qui ai quand même péché grave. Donc attention, quelqu'un qui dit que le bon Dieu s'est trompé sur un seul point, en fait, injurie notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant qu'il n'est pas Dieu puisqu'il s'est trompé sur un seul point. Et donc, même s'il reçoit l'absolution, cette absolution est nulle parce que justement, il ne peut pas recevoir la vertu de charité. La vertu de charité ne peut pas s'appliquer sans l'intégralité de la foi. La foi est en quelque sorte le soubassement de la vertu de charité. Donc, c'est par l'obéissance de la foi, disent les pères, que tous les hommes doivent parvenir au baptême. Béthanie signifie aussi la maison de la préparation. Cette signification se rapporte parfaitement au baptême de Saint Jean-Baptiste qui avait pour fin de préparer au Seigneur un peuple parfait. Donc le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Il faut rappeler à temps et à contre-temps l'importance de ce dogme aujourd'hui, surtout quand Bergoglio publiquement nie l'efficacité du baptême en prétendant que tous les hommes sont enfants de Dieu et que donc le baptême n'est pas nécessaire pour devenir enfant de Dieu. Bergoglio, c'est évident, ne croit plus que le baptême donne un caractère ineffaçable qui fait de nous des enfants de Dieu, puisqu'il a dit publiquement que tous les musulmans sont des enfants de Dieu. Or, les musulmans ne sont pas baptisés, donc on peut devenir enfant de Dieu sans baptême. C'est tout le fondement même de la foi catholique qui s'écroule. Donc, le baptême fait de nous des enfants de Dieu pour préparer le peuple du ciel. On se marie pour ça d'ailleurs. Le sacrement de baptême prépare, amène au sacrement de mariage. Le sacrement de mariage a pour but de peupler le ciel d'élus. Donc on se marie pour avoir des enfants. On ne voulait pas d'enfants, vous ne pouvez pas vous marier. Et si vous vous mariez avec le désir de refuser tous les enfants, si vous ne voulez pas d'enfants, sous n'importe quel prétexte, votre mariage est absolument invalide. Ce qui manquera, une condition sine qua non pour la validité du sacrement de mariage. Je ne dis pas qu'il faut trois conditions pour que le sacrement de mariage soit valide au niveau du contrat. Il faut l'acceptation de l'unité, de l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. Donc, Saint Jean-Baptiste prépare le peuple à passer à notre Seigneur Jésus-Christ amenant les âmes au paradis. Le mot Jourdain, il est bien précisé que c'est dans le Jourdain, c'est le verset 28, ces choses se passaient à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc le Jourdain, le mot Jourdain veut dire descente, leur descente. Or, quel est ce fleuve si ce n'est notre Seigneur qui purifie tous ceux qui entrent dans le monde en descendant et en s'humiliant non par lui-même, mais dans la personne du genre humain. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation, va commettre, si vous voulez, un acte d'humilité absolument incomparable. Une nature divine qui s'abaisse au niveau d'une nature infiniment inférieure à cette nature divine. C'est ce qui se passe par le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est quoi? C'est l'union de nature en une seule personne. La nature humaine et la nature divine, qui se mettent au même niveau, littéralement, dans la même personne. Donc la personne de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme et vraiment Dieu. Pourtant, la nature humaine est infiniment inférieure à la nature divine. Donc, ce fleuve dont parle ici le Saint-Évangile, le fleuve, c'est le fleuve du Jourdain, au-delà du Jourdain où où Jean baptisait, ce fleuve sépare les terres et les villes données par Moïse de celles qui ont été données par Josué. Et les eaux rapides de ce fleuve portent la joie dans la cité de Dieu. Donc, le fleuve. Et le baptême, si vous voulez, dans le Jourdain, symbolise la séparation qui doit exister entre la mentalité chrétienne et la mentalité païenne. Lorsque je suis baptisé dans les eaux du Jourdain, c'est le symbole du baptême. Le baptême si vous voulez, est la continuation du baptême, premier baptême de pénitence donné par Saint Jean-Baptiste et du baptême de rémission des péchés donné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ baptisé dans le Jourdain et par le baptême, le prêtre qui baptise un nouveau-né, par exemple, va renouveler le baptême que notre Seigneur Jésus-Christ donnait lui-même dans les eaux du Jourdain. Donc, les eaux du Jourdain symbolisent cette séparation entre deux mondes, un monde centré sur Dieu et un monde centré sur l'homme. Un monde, le monde de la révélation centrée sur Dieu, contre le monde de la révolution centrée sur l'homme. Donc ce fleuve donc sépare les différentes villes, de même que le serpent se cache dans le fleuve d'Égypte, ainsi Dieu se cache dans le fleuve du Jourdain. Car le Père dans le Fils, et ceux qui viennent pour se purifier dans ces eaux, se dépouillent de l'opprobre de l'Égypte et se rendent dignes d'avoir part à l'héritage. Ils sont purifiés de la lèpre. Et ils méritent de recevoir une double grâce et de voir descendre en eux l'Esprit de Dieu, car la colombe spirituelle ne descend point sur un autre fleuve. Donc, seul le baptême donné par notre Seigneur Jésus-Christ, le baptême catholique, donne la grâce. Donc, attention, même si un baptême est conféré par quelqu'un qui n'a pas la foi, mais qui est donné au nom de l'Église catholique, un tel baptême serait valide. Je donne souvent l'exemple d'une mère de famille qui va accoucher à l'hôpital ou à la maternité et qui dit à l'infirmière, écoutez, je vous en supplie, si je sais que l'enfant est très gros dans mon sein, qu'il y a un problème de cordon, par exemple, autour de la tête de l'enfant, l'enfant se présente mal, il se présente par le siège, il se présente par la tête, et donc je sais qu'il y a un risque pour l'enfant, en plus il y a un problème cardiovasculaire, il y a un problème respiratoire, je ne sais quoi. Bon, et donc la maman dit, écoutez, je vous supplie, madame, infirmière, s'il y a le moindre danger pour l'enfant, vous voyez que l'enfant commence à avoir des difficultés de respiration, qu'il commence à devenir tout bleu, que le rythme cardiaque de l'enfant s'affole, vous prenez, dès que la tête est sortie du sein maternel, vous prenez un verre d'eau, vous versez le verre d'eau sur la tête de l'enfant et vous dites, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Vous me promettez de faire ça. Mais madame, je suis juive, ou je suis musulmane, ou je suis bouddhiste, ou je suis rien du tout. Ça fait rien. Même si vous n'êtes pas catholique, je vous demande de le faire simplement pour moi. Parce que moi, je suis catholique, je crois à l'importance du baptême. Je veux pas que mon enfant risque, mais simplement risque la mort sans être baptisé auparavant. Eh bien, si l'infirmière qui est juive ou musulmane ou rien du tout, baptise l'enfant, le baptême est parfaitement valide parce que le baptême est fait dans l'intention de suivre la foi de la mère qui prend la responsabilité du baptême. Bon, on reprend, on continue ce texte. Donc, lorsque les pères disent la colombe spirituelle ne descend point sur un autre fleuve que le fleuve du Jourdain, mais il est évident que c'est bien ce que ça veut dire, que hors de l'Église catholique, il ne peut pas y avoir de salut. Hein? Même si il peut y avoir des baptêmes valides en dehors de la véritable Église du Christ. Attention, c'est un peu compliqué. Par exemple, les baptêmes orthodoxes, de la religion orthodoxe est une fausse Église. C'est une église proche de l'église catholique. Je me sens bien plus proche des orthodoxes, par exemple, que des membres de l'église de Vatican II. L'église orthodoxe russe ou autre est une église qui est une fausse église, mais qui a des sacrements valides. Attention, le baptême orthodoxe est parfaitement valide parce qu'il croit à l'intégralité des dogmes de la foi relatifs au baptême. Entre autres, il croit au péché originel. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le baptême, par exemple, vraisemblablement de la High Church of England, de la Haute Église anglicane, est vraisemblablement valide. Bien que dans la pratique, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on, moi, en tout cas, j'ai toujours fait, je renouvelle pratiquement systématiquement tous les baptêmes protestants sous condition. Même des enfants qui auraient été baptisés dans la Haute Église anglicane à cause des divergences qui existent entre tous les ministres de ces fausses religions. Et c'est un peu un grand mystère parce que non seulement le baptême orthodoxe est valide, par exemple, mais tous les sacrements en fait donnés par l'Église orthodoxe sont valides sauf le mariage. Bon, par exemple, la messe orthodoxe est valide. Vous rentrez dans une église orthodoxe, il y a présence réelle. Cependant, on n'a pas le droit de participer à ces messes parce que ce sont des messes qui sont des messes dites par des gens qui sont hérétiques. C'est un peu complexe. N'oublions pas que, bien que ces sacrements soient valides, tous les sacrements sont valides sauf le mariage parce que l'église orthodoxe ne croit pas en l'indissolubilité du mariage. Accepte le divorce. En plus de ça, il refuse le purgatoire, il refuse l'assomption à la Sainte Vierge Marie, il refuse l'Immaculée Conception, il refuse toute une série de dogmes, il refuse la papauté. Et donc, c'est assez complexe. Donc, j'aime bien cette formule que la colombe spirituelle catholique ne peut descendre sur un autre fleuve. Il faut donc laver avec l'eau ceux qui ont été pollués par le péché comme un début de pénitence afin d'être conduits des choses plus basses aux plus nobles. Car celui qui donne les plus grandes choses et la plus haute perfection arrive après moi. Donc on voit bien toute l'humilité de Saint Jean-Baptiste. Donc Saint Jean-Baptiste prêchait un baptême de pénitence qui n'effaçait pas le péché originel, directement en tout cas. Vous allez me dire, mais comment les Juifs de l'Ancien Testament, qui étaient avant l'arrivée du baptême comme sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, comment les Juifs de l'Ancien Testament pouvaient se sauver à ce moment-là? Eh bien, ils se sauvaient par la foi au Christ à venir. Donc toutes les purifications rituelles des Juifs, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, la circoncision pour les hommes était des préfigurations, si vous voulez, du grand sacrifice qu'allait venir accomplir notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en croyant au Messie qui allait venir, la circoncision, les rituels de purification qui étaient faits par les Juifs de l'Ancien Testament, amener les hommes au baptême de désir, puisqu'il n'y avait pas encore de baptême sacramental institué par notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de baptême au moment où lui-même a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Alors, Saint Jean-Baptiste va parler de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Donc il va annoncer à ses disciples, on va voir ça un peu plus loin, sur verset 36, « Regardant Jésus qui passait, Saint Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. » Il y a déjà ici des commentaires sur ce mot « agneau ». Le Christ est appelé l'agneau par Saint Jean-Baptiste et par son apôtre Saint Jean l'Évangéliste dans l'Apocalypse. Bon, pourquoi? Certaines des raisons données par les pères de l'Église, on reviendra plus tard sur ces raisons au verset 36, mais j'en parle déjà là parce que j'ai trouvé des textes justement dans le commentaire, des commentaires sur les versets 26 à 28, donc c'est pour ça que je les ai mis aussi à cet endroit-là. Donc l'agneau de Saint Jean-Baptiste, qui est ce quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui doit venir après moi, qui a été placé au-dessus de moi, dit Saint Jean-Baptiste, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale, bien cet agneau fut préfiguré par l'agneau pascal, et par les sacrifices quotidiens du matin et du soir de l'agneau de Dieu dans le temple, et par les autres agneaux qui étaient offerts pour le péché, selon la loi, mais qui ne pouvaient ôter les péchés. Rappelez-vous la première Pâque des Juifs, où Dieu avait demandé aux Juifs, qui étaient maintenus en esclavage en Égypte, de badigeonner le pourtour de leur porte d'entrée avec le sang d'un agneau qui venait d'être immolé. Donc la famille juive se réunissait comme pour un départ en voyage et mangeait cet agneau rôti avec des herbes amères. Symbole de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le père de famille badigeonnait le pourtour de la porte, le bois de la porte à l'extérieur, le pourtour qui tient la porte, de ce sang d'agneau. L'agneau est évident que c'est une représentation magnifique d'un autre sang qui va venir plus tard pour purifier les hommes, à savoir le sang du sacrifice de la messe. Donc il y a le sang de l'agneau pascal de l'Ancien Testament. Deuxième étape, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nouvel agneau pascal qui s'offre le Vendredi Saint. Et cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ est continuée, renouvelée de manière non sanglante, mais de manière parfaitement réelle à chaque fois que la Sainte Messe est offerte. Donc c'est pour cela que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire, donc le renouvellement non sanglant aussi du sacrifice de l'agneau divin. Donc cet agneau de Dieu représente le Christ qui doit ôter, qui devait représenter le Christ qui devait ôter ses péchés par son sang. C'est une comparaison d'origine. Donc le sang offert sur le pendant la Sainte Messe, et le même sang qui fut offert par notre Seigneur Jésus-Christ le Vendredi Saint au sommet du Calvaire. Et ce sang était déjà préfiguré par le sang de l'agneau qui était offert dans le jour de la Pâque par les familles juives. Vous voyez, donc on voit une continuité dans les différents symboles qui amènent à la Sainte Messe. Passons en page 16. Donc, deuxième raison pour laquelle le Christ est appelé l'agneau divin. Donc, premièrement, on a vu parce qu'il préfigure, il est préfiguré par l'agneau pascal. Donc, il représentait le Christ. L'agneau de Pâques représentait, de la Pâque juive représentait le Christ qui devait ôter ses péchés par son sang. Notre Seigneur Jésus-Christ va s'immoler sur la croix. Il va être amené sur la croix comme un agneau absolument innocent qui est amené sous le couperet de celui qui va l'égorger à l'abattoir. Deuxième raison, le Christ fut appelé l'agneau par Saint Isaïe, Saint Jérémie, deux prophètes de l'Ancien Testament, qui devait être offert pour la rédemption du monde. Donc il est offert pour ôter les péchés par son sang, il est offert aussi pour la rédemption du monde. Le monde ne peut pas être racheté sans l'intervention de ce sang divin. Troisième raison, le Christ a l'innocence de l'agneau par sa douceur, sa patience et son obéissance jusqu'à la mort qu'il supporta en silence. Lui qui outrageait ne rendait point l'outrage, qui maltraitait ne faisait point menace, et qui s'en remettait à celui qui juge avec justice. Donc la douceur de l'agneau, la patience de l'agneau, l'obéissance de l'agneau qui se laisse traîner à la mort en silence complet, eh bien, représente notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour obéir aux ordres de son Père Céleste, accepte de devenir, de porter la croix comme le dernier des esclaves. Donc le Christ est appelé l'agneau de Dieu, agneau non pas d'une brebis mais de Dieu, qui par la volonté de Dieu fut offert pour la rédemption de l'homme. De même, le sacrifice offert par Abraham est appelé le sacrifice d'Abraham qui fut offert à Dieu lui-même. C'est encore une autre très belle image qui annonçait le sacrifice de la passion du Christ et le sacrifice de la messe, l'histoire d'Abraham qui reçoit l'ordre d'immoler son fils Isaac. Et le mont sur lequel Dieu a demandé de conduire Abraham pour qu'il immola son fils, ce mont, c'est le mont Calvaire. Le mont Moria, c'est le mont Calvaire, c'est le même. Et vous connaissez tous cette histoire magnifique, donc l'extraordinaire exemple d'obéissance d'Abraham à Dieu, alors qu'il avait attendu cet enfant jusqu'à une extrême vieillesse, c'était l'enfant de la vieillesse, l'enfant de sa vieillesse, son bâton de vieillesse, et bien Dieu demande à Abraham d'aller immoler son fils Isaac. Donc, Isaac va faire porter par un âne le bois du sacrifice et va conduire son fils jusqu'au sommet du mont Calvaire où il devait l'immoler sur le bois du sacrifice. Donc il dépose le bois du sacrifice sur le sommet de la montagne, le sommet de la colline, et ensuite il met son fils ficelé, je suppose, et c'est extraordinaire d'ailleurs de voir manifestement le fils qui se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer, ne se plaint pas, ne cherche pas à se débattre. Et vous savez qu'un ange va arrêter le bras d'Abraham et que notre Seigneur Jésus-Christ va souverain, Dieu va renouveler sa promesse au peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif. Et au lieu d'immoler son fils, notre Seigneur Jésus-Christ va permettre que Abraham trouva au sommet du mont Moria, dans un buisson, un bouc, un bélier qui avait été pris par les cornes dans les buissons. Et donc, au lieu d'immoler son fils, Isaac, il va immoler cet agneau, ce bélier. Donc, c'était un magnifique. On retrouve le même esprit d'obéissance qu'on a chez Saint Jean-Baptiste, le même esprit d'humilité, le même esprit de docilité. Quand Dieu commande, on obéit, même si on ne comprend pas l'ordre. C'est facile d'obéir quand on comprend les ordres qui nous sont donnés. C'est facile d'obéir quand on aime l'ordre qui nous est donné. Mais avec Dieu, Dieu ne peut pas se tromper. Donc il nous donne des ordres de façon tout à fait raisonnable, même ce qui est raisonnable pour Dieu n'est pas forcément raisonnable pour nous. Parce que beaucoup de choses que nous ne comprenons pas les véritables raisons du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'agneau de Dieu est offert pour la rédemption du monde. Il est offert en représentation de ce Christ qui devait ôter les péchés par son sang. Donc le Christ a l'innocence, la douceur, la patience et l'obéissance de l'agneau. Et la docilité, cette docilité va se manifester surtout par l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ de mourir par obéissance à son Père. La différence entre le sacrifice d'Abraham et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que le sacrifice d'Abraham n'a pas été effectué, puisque Dieu a envoyé un ange pour arrêter le bras qui chargeait du couteau qui allait immoler sur le fils d'Abraham, Isaac. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, il y a Dieu épargne Abraham, qui n'est pas obtenu d'immoler son propre fils, mais Dieu ne va pas épargner son propre fils, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas envoyer un ange pour arrêter le couperet que les Juifs tendaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va vraiment mourir sur la croix, ce qui n'est pas le cas d'Isaac, puisqu'il a été sauvé par l'ange. Le Christ est appelé l'agneau, on est en page 16, en haut de la page, le Christ est appelé l'agneau de Dieu, agneau au nom d'une brebis de Dieu, qui par la volonté de Dieu fut offerte pour la rédemption de l'homme. De même, le sacrifice offert par Abraham est appelé le sacrifice d'Abraham qui fut offert à Dieu lui-même. Donc, le sacrifice, par définition, est toujours offert à Dieu et à Dieu seul. C'est pour cela que lorsque on demandait aux premiers catholiques d'offrir un sacrifice devant la statue d'un faux dieu, un chrétien ne pouvait pas accepter, parce que d'accepter un sacrifice d'un faux dieu, ça voulait dire qu'il reconnaissait implicitement la divinité de ce faux dieu. Or, un faux dieu, par définition, n'est pas divin, parce qu'il n'y a qu'un seul dieu. Donc l'agneau de Dieu est un agneau divin, parce que la divinité était en lui, et qu'il fut fait l'enfant du Père. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants ou agneaux, c'est une expression du pape Saint Clément. Comme l'Écriture appelle les enfants agneaux, Dieu qui est le Verbe, qui pour nous devint homme, qui voulut en toute chose devenir comme nous, est appelé l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, l'enfant et le Père. Donc, l'agneau représente cette docilité, une espèce d'innocence. C'est l'agneau, traditionnellement, c'est l'agneau qui est représenté comme symbole de l'innocence, symbole de la docilité. Sa mère l'appelle et il obéit tout de suite. Donc il faut méditer un petit peu sur tous ces magnifiques passages. Qui était encore très mystérieux au temps des Juifs, parce que ils savaient pas encore comment le sacrifice de l'agneau pascal, dont le sang servait à la protection des maisons juives, puisque l'ange exterminateur qui avait été envoyé par Dieu pour prendre les premiers-nés de toutes les tribus, de toutes les maisons, pénétrera pas dans les maisons protégées par le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau pascal des Juifs avant notre Seigneur Jésus-Christ représente le sang d'un autre agneau, qui est cette fois-ci l'agneau divin. Le sang a toujours été un symbole de rédemption. Je me rappelle chez les Aztèques, au Mexique, les Aztèques avaient ce culte du sang, puisqu'ils offraient des sacrifices humains au temps où en France, en Europe, on baptisait des cathédrales, il y avait des sacrifices humains qui étaient offerts en nombre incroyable aux faux dieux des Aztèques qui vénéraient le soleil. Et le soleil étant Dieu, il fallait abreuver le soleil avec du sang frais humain. Donc uniquement du sang de jeunes enfants, du sang de jeunes filles, de jeunes hommes, parce qu'il fallait que le sang soit parfaitement pur. Et les franciscains, les dominicains aussi, qui avaient été envoyés avec les bateaux de Hernán Cortés, donc on est en 1520 par là, lorsque Cortés a découvert, après la première découverte de 1492 de Christophe Colomb, lorsque par la suite Hernán Cortés est revenu dans le Nouveau Monde. Donc il avait amené dans ses cales, les cales de ses navires, des missionnaires qui ont commencé à évangéliser ces peuplades du Nouveau Monde, qui étaient des créatures de Dieu comme les autres. Hein. Et il y a eu des miracles extraordinaires. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal pour convertir. Et heureusement que la Sainte Vierge s'en est mêlée avec l'apparition du mois de décembre 1531 à Juan Diego, Notre-Dame de Guadeloupe. On voit bien l'importance de ce sang rédempteur. Donc les Aztèques étaient habitués à offrir le sang des victimes en nombre incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que cette peuplade, cette religion aztèque a disparu. C'est pratiquement c'est une espèce d'auto-destruction par la destruction du sang de ses propres enfants. Quelque chose de bien difficile à comprendre. Et les missionnaires franciscains expliquaient aux Aztèques, mais vous n'avez, aux gens qui suivaient cette fausse religion épouvantable, vous n'avez plus besoin d'offrir à votre Dieu Soleil du sang frais humain, puisque maintenant nous vous offrons le sang de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Les Indiens avaient beaucoup de mal à comprendre ça, et heureusement qu'il y a eu l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, et qui a ouvert le cœur des Indiens, parce que Notre-Dame avait pris la précaution d'apparaître habillée comme les Indiennes, avec le teint mat des Indiennes, et lorsque les Aztèques ont vu que Notre-Dame était représentée avec un costume maya et tous les signes distinctifs des femmes enceintes, pas maya, aztèques, pardon, eh bien, ils sont tout de suite, ils sont tombés à genoux, ils ont dit, c'est notre reine. Ils ont tout de suite adopté comme leur reine, et ça a été le baptême de la tribu, de la nation, des nations mexicaines, qui n'existait pas encore comme nation, mais qui allait, au début, c'était un assemblement de toute une série de royaumes aztèques. Donc, notre Seigneur est appelé l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, l'enfant et le Père. Continuons avec les versets 29, 30 et 31 du chapitre 1er de Saint Jean. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui a été placé au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Donc, attention, là, ici, il s'agit du baptême de pénitence, de notre Seigneur Jésus-Christ, de Saint Jean-Baptiste, et pas du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir plus tard. Donc la visite de Marie à Élisabeth, qui était son inférieure, et la démarche du Fils de Dieu qui vient trouver Jean-Baptiste nous apprennent l'humilité, le zèle avec lequel nous devons nous rendre utiles à ceux qui sont nos inférieurs. Donc on voit très bien, de même que notre Seigneur Jésus-Christ vient à visiter Saint Jean-Baptiste et demander à être baptisé par lui, de la même façon, notre Sainte Vierge Marie va venir aider Sainte Élisabeth, sa cousine, alors que la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ est largement supérieure à celle de Saint Jean-Baptiste, et que la dignité de notre Sainte Vierge Marie est aussi largement supérieure à celle de Sainte Élisabeth. Donc on voit par tous ces passages extraordinaires l'importance de la vertu d'humilité. On ne peut pas conserver la foi sans humilité. Dès qu'on cherche à s'en tirer par nos propres forces, tout s'écroule. On le voit très bien dans le monde moderne. Ce qui caractérise le monde moderne, c'est l'orgueil. Ce qui a perdu Lucifer, c'est l'orgueil. Je ne servirai pas. Au contraire, ce qui a amené tous les saints au ciel, c'est la vertu d'humilité. Ce qui doit nous amener au ciel, c'est la vertu d'humilité. Et le plus grand obstacle à la montée au ciel, c'est l'orgueil. On voit très bien aussi dans tous les textes, surtout de condamnation du modernisme par Saint Pilice, comment Saint Pilice rappelle que le modernisme est parfaitement à l'aise dans tous les milieux dès qu'il y a de l'orgueil en jeu. Et d'où l'importance de cette vertu de docilité, qui est la vertu qui amène à la vertu d'humilité. La porte d'entrée de la vertu d'humilité, c'est la docilité. La docilité, c'est le fait que je reconnaisse que j'ai besoin d'être formé. Monseigneur Alphen nous disait souvent dans la formation qu'il nous donnait au séminaire d'Écône, il disait la première des vertus dont nous avons besoin, c'est la vertu de docilité, parce que c'est la vertu par laquelle je reconnais la nécessité d'être formé. Donc la vertu de docilité ouvre la porte de mon cœur pour que l'humilité puisse rentrer. S'il n'y a pas de docilité, il n'y a pas d'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de charité, il n'y a pas de fidélité. Impossible. Donc la docilité amène l'humilité, l'humilité amène à la vertu de charité. Oh, quel est ce sacrifice que la nature raisonnable doit offrir à Dieu chaque jour, si ce n'est le Verbe toujours plein de force de vie et de bonté qui nous est ici représenté sous la figure d'un agneau. Donc l'agneau de Dieu représente le Fils de Dieu qui accepte de se livrer au couperet de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, c'est tout le symbole de cette humilité extraordinaire. Dieu qui envoie son propre fils pour mourir, alors que son fils est innocent, pour l'envoyer mourir pour des gens qui sont coupables et qui ne veulent pas reconnaître leur culpabilité. C'est ahurissant. C'est lui donc qui sera notre sacrifice du matin, qui applique notre intelligence à la méditation des vérités divines, car notre âme ne peut toujours être appliquée à des choses aussi relevées à cause de son étroite union avec ce corps mortel qui l'apesantit. Pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ passait très souvent par des symboles. On voit très bien ces symboles, par exemple dans le sang d'agneau qui badigeonne les portes des maisons des Juifs pour les protéger de l'ange exterminateur. Donc, Dieu va prendre des choses concrètes, réelles, comme par exemple la vigne, le pain, le vin, etc., pour élever les âmes de ses auditeurs de ce monde terrestre au monde surnaturel, au monde du paradis, au monde dans lequel le monde que nous visons, si vous voulez. N'oubliez pas que la fin, c'est le ciel, la fin première dans l'intention, mais dernière dans l'exécution, dit saint Thomas d'Aquin. Donc il faut constamment avoir en vue cette fin qui doit être la nôtre, à savoir le ciel, nous sommes des êtres d'éternité. Nous allons tous tomber dans une ou l'autre éternité. Il n'y en a que deux d'éternité, il n'y en a pas 36. Il y a l'éternité de bonheur au ciel ou l'éternité de malheur en enfer. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a rien au milieu, il n'y a rien entre les deux, ces deux éternités. De cette vérité que Jésus-Christ est un agneau, nous pourrions tirer encore plusieurs conséquences très utiles. Et nous arriverions ainsi jusqu'au sacrifice du soir, qui représente les choses corporelles. Donc le sacrifice du matin applique notre intelligence à la méditation des vérités divines, et le sacrifice du soir représente les choses corporelles. Or celui qui a offert cet agneau en sacrifice, c'est Dieu qui était comme caché dans l'homme. C'est le grand prêtre qui a dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même ». Et c'est pour cela qu'il est appelé l'agneau de Dieu, car il a pris sur lui toutes nos infirmités. Et une autre image qui est très belle, qui sera reprise par notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, c'est l'image du bon samaritain. Le bon samaritain qui trouve l'homme à moitié mort au bord de la route et qui va verser sur lui l'huile et le vin, symbole du sacrifice de la messe, sacrifice de la Sainte Eucharistie, sacrifice de l'extrême onction aussi, et qui va placer le moribond sur sa propre monture. Et tous les pères de l'Église expliquent que cette monture, l'âne qu'utilisait ce Samaritain, qui était un pèlerin, donc en route dans la ville de Jérusalem, sans doute, eh bien cette monture représente le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte d'unir sa divinité avec l'humanité. Et donc, quand le Samaritain va placer le moribond sur la monture, c'est-à-dire sur son âne, eh bien, cela représente le mystère de l'incarnation. Vous voyez ? On retrouve aussi un peu la même idée dans, je vous l'ai déjà dit, dans le buisson ardent de Moïse. Moïse qui voit un buisson ardent qui se consume dans le désert sans se détruire, qui est consumé par le feu sans être transformé en cendre. C'est aussi le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ s'unit à une nature largement inférieure à la sienne, à la nature humaine, dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie, sans rien perdre de sa divinité. Et ça présente aussi l'union de notre Sainte Vierge Marie avec l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'elle devient la Mère de Dieu. Et c'est représenté aussi par toutes ces images, entre autres l'image du buisson ardent. Notre Sainte Vierge Marie va devenir Mère de Dieu sans perdre sa virginité. Elle demeure vierge, elle est vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, en effet, ne laisse passer sans les reprendre et les châtier aucune de nos actions contraires à sa loi, et ce n'est qu'au prix des plus grands efforts qu'elles peuvent être ramenées à cette règle divine. Autre commentaire des pères, en bas de la page 16, il ne dit pas qui effacera, mais qui efface les péchés du monde. Voici l'anneau de Dieu, dit Saint Jean-Baptiste, voici celui qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire qu'il continue toujours de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver à un point précis de l'histoire de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de l'histoire, va pouvoir pardonner les péchés. Et toutes les purifications dans l'Ancien Testament vont représenter cette purification extraordinaire de la Passion qui va être continuée de façon non sanglante, mais de façon réelle, par le sacrifice de la messe. Donc, au sacrifice de la messe, la messe est d'abord un sacrifice de propitiation. Sacrifice de propitiation, ça veut dire un sacrifice de réparation. Donc, par la Sainte Messe, Dieu continue d'effacer les péchés des hommes. Donc au moment de la Sainte Messe, au moment où le prêtre offre sur la patène l'hostie consacrée, c'est vraiment le moment où il faut se mettre soi-même sur la patène, et non seulement se mettre soi-même, mais mettre tous ses péchés passés sur la patène, pour que notre Seigneur Jésus-Christ les repardonne, en quelque sorte, pendant la Sainte Messe. Vous voyez ? Donc de même que le pain est transformé en la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, bien, sur la patène, à côté du pain, à côté de l'hostie, il va falloir mettre tous nos péchés, et tous nos péchés vont être brûlés par l'amour de Dieu. Rappelez-vous l'image utilisée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, même si j'avais commis tous les péchés qui peuvent être commis, j'irais me jeter mon âme pleine de repentir, mon cœur plein de repentir dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et tous mes péchés seront dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme une simple goutte d'eau jetée dans un brasier gigantesque, un brasier ardent gigantesque. Pourquoi ? Parce que la goutte d'eau qui est jetée dans un grand brasier disparaît immédiatement et est transformée en vapeur. Eh bien, c'est la même chose. Tous nos péchés seront brûlés par l'amour débordant de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous. Voilà pourquoi la messe est tellement importante. Donc, au début de chaque messe, il faut que vous pensiez, mes chers frères, à offrir votre messe en réparation, justement, pour tous les péchés du passé. Réoffrir vos péchés. C'est la dernière chose qu'on pense à offrir. Rappelez-vous cette histoire de Saint Jérôme. Je ne vais pas la raconter de nouveau. J'ai déjà expliqué très souvent. Notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît à Saint Jérôme à Bethléem, au lieu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui apparaît comme un enfant et qui lui demande un cadeau pour Noël. Et Saint Jérôme, finalement, après lui avoir offert tout ce qu'il a, c'est plus ce qu'il va offrir. Et notre Seigneur Jésus-Christ de lui dire, offrez-moi vos péchés pour que je puisse les repardonner. Évidemment, humainement parlant, c'est la dernière des choses qu'on souhaiterait offrir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nos péchés, on a envie de les cacher, nos péchés, c'est normal. Eh bien, il faut les offrir. Au début de chaque messe, offrez tous vos péchés, offrons tous nos péchés à notre Seigneur Jésus-Christ, placez-les, déposez-les sur la patène et demandez au bon Dieu, au moment de la transformation de la substance du pain, la substance du vin, la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tous vos péchés, tous nos péchés qui auront été déposés soigneusement sur la patène, tous ces péchés vont disparaître. Parle à tous le miracle, le mystère de la transsubstantiation. Donc ce n'est pas seulement, disent les pères, dans sa passion et sur la croix qu'il efface le péché du monde, il n'a cessé de l'effacer depuis sa mort jusqu'à présent. Il n'est pas toujours crucifié, il est vrai, puisqu'il n'a offert qu'un seul sacrifice pour nos péchés, mais il ne cesse de les effacer par la vertu de ce sacrifice. Donc la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, et donc les mérites que notre Seigneur Jésus-Christ a acquis au cours de sa passion le Vendredi Saint vont être transférés en quelque sorte par la Sainte Messe. C'est pour ça que la Sainte Messe est offerte d'abord en propitiation pour nous rendre propices en réparation pour les péchés pour lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a dû mourir sur la croix. Il n'est pas toujours crucifié, puisqu'il n'a offert qu'un seul sacrifice, mais il ne cesse de les effacer par la vertu de ce sacrifice. Alors, versets 32, 33 et 34, en bas de la page 16, début de la page 17. Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se reposer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. » Et celui qui m'a envoyé, baptisé dans l'eau, m'a dit, celui sur qui vous verrez l'Esprit descendre et se reposer, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà donc, cette extraordinaire humilité de Saint Jean-Baptiste, donc qui s'efface complètement pour que notre Seigneur Jésus-Christ vienne prendre totalement sa place. Alors voyons ce que disent les pères de l'Église. Donc Jésus, quand Saint Jean-Baptiste rend témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe se reposer sur lui », ça c'est aussi une allusion à ce qui va se passer au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Une colombe va venir voltiger, se poser sur la tête de notre Seigneur qui vient d'être baptisé, alors qu'il n'a pas besoin puisqu'il est Dieu, par Saint Jean-Baptiste, et une voix va se faire entendre du Père, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Donc on trouve, c'est une théophanie extraordinaire, avec trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père du ciel qui parle, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Le Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, à genoux au pied dans l'eau pour être baptisé par Saint Jean-Baptiste, et la colombe qui est voltige, qui représente le Saint-Esprit. D'où ce verset 32, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se reposer sur lui. » Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté aux hommes sous deux formes visibles, sous la forme d'une colombe lorsqu'il descendait sur notre Seigneur après son baptême, et sous la forme de langue de feu quand il descendit sur les apôtres réunis. Donc ça, c'est évidemment le mystère de la Pentecôte. Donc, une comparaison qui est faite entre la colombe qui descend sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de son baptême dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste et la langue de feu qui va descendre du ciel, ces langues de feu qui vont se répartir sur la tête de tous les apôtres, la Sainte Vierge et les Saintes Femmes qui étaient là. Donc on est 50 jours après Pâques, après la résurrection, 10 jours après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et donc 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Pâques. Et donc, pourquoi la langue de feu? Pourquoi ce feu? Parce que le feu purifie, le feu éclaire, le feu réchauffe. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit dans notre âme. Le Saint-Esprit dans notre âme va éclairer, va nous guider, va nous réchauffer et va nous guider. Les anciens, les hommes préhistoriques, les premiers hommes avec... début, justement, utiliser le feu, beaucoup, pas les hommes préhistoriques, mais les hommes tout à fait au début de notre histoire, les hommes utilisaient le feu pour se protéger, mais aussi pour se réchauffer, pour cuire les aliments, mais d'abord comme protection. Alors, le feu du Saint-Esprit, c'est le symbole, justement, de ce feu du Saint-Esprit qui protège l'âme contre les intrusions démoniaques. Oui. On voit très bien le feu a toujours été un symbole de purification. Et donc, ça représente le feu du Saint-Esprit, évidemment. D'un côté, c'est le symbole de la simplicité. De l'autre, l'emblème de la ferveur. La forme de la colombe apprend à ceux qui ont été sanctifiés par l'Esprit Saint à fuir toute duplicité. Le feu enseigne à la simplicité à ne point faire ses actions avec froideur. Donc, l'esprit, si vous voulez, qui descend du ciel est représenté par ce feu. Le feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Donc, on va retrouver de façon très nette au jour de la Pentecôte, quand il descendit sur tous les apôtres réunis. Donc, c'est le symbole de la ferveur. La ferveur est représentée par le feu. C'est pour ça que dans les images classique des saints qui avaient un amour débordant pour notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très bien que tous ces saints sont représentés sur les images avec justement un feu extraordinaire, une luminosité de visage extraordinaire et un feu qui sort de leur cœur pour bien montrer cette union qui existait entre leur cœur, les battements de leur cœur et les battements du Sacré-Cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ va donc prendre sur lui tous nos battements de cœur pour se les incorporer. C'est pour ça qu'il faut utiliser cette dévotion au Sacré-Cœur pour mettre notre cœur dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la colombe est le symbole de la simplicité, la duplicité aussi, d'après le père de l'Église, le symbole de la fidélité. Parce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un couple de cordes, de colombes, tourterelles, est uni à vie. Le mâle et la femelle restent ensemble pour toute leur vie. Donc c'est le symbole de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de la fidélité par laquelle nous devons rendre amour pour amour. Nous aussi, nous devons être unis à notre Seigneur Jésus-Christ par un mariage mystique, en quelque sorte, de façon définitive. Il ne faut pas revenir en arrière, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, les pères font remarquer qu'il ne faut pas s'étonner que les langues soient divisées. Ne craignez pas la division, reconnaissez dans la colombe le symbole de l'unité. Donc il fallait que l'Esprit Saint descendît sur notre Seigneur sous la forme d'une colombe. Encore une fois, la colombe représente la fidélité. La forme d'une colombe pour apprendre à tous les chrétiens qu'on reconnaîtra qu'ils ont reçu l'Esprit Saint s'ils ont la simplicité de la colombe et s'ils vivent avec leurs frères dans cette paix véritable que figurent les baisers des colombes. Et là, le roucoulement permanent de la colombe représente aussi les prières d'adoration des fidèles. Donc de même que le roucoulement de la colombe est un symbole de paix, si vous voulez, la colombe est celle qui va apporter en quelque sorte le rameau d'olivier, le rameau de la paix dans l'arche de Noé. Bien de la même façon, la colombe qui est venue se reposer sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de son baptême est symbole de cette paix, de cette simplicité et surtout de cette fidélité. Donc les baisers des colombes représente justement cette simplicité et cette charité qui doit exister entre les membres d'une même famille religieuse, à savoir la famille des catholiques. Alors, les pères de l'Église font remarquer que les corbeaux, ne craignez pas la division, reconnaissez dans la colombe le symbole de l'unité. Il fallait que l'Esprit Saint descendît sur notre Seigneur sous la forme d'une colombe pour apprendre à tous les chrétiens qu'on reconnaîtra qu'ils ont reçu l'Esprit Saint s'ils ont la simplicité de la colombe et s'ils vivent avec leurs frères dans cette paix véritable que figurent les baisers des colombes. Au contraire, les corbeaux donnent des baisers, mais en même temps ils déchirent. La colombe ne s'est point déchirée. Les corbeaux se nourrissent de corps qui ont été mis à mort, ce que ne fait pas la colombe qui ne se nourrit que des fruits de la terre. Or, si la colombe fait entendre des gémissements d'amour, ne soyons pas surpris que l'Esprit Saint ait voulu apparaître sous la forme d'une colombe, lui qui prie pour nous par ses gémissements ineffables. Donc ce n'est point en lui-même, mais en nous que l'Esprit Saint gémit par les gémissements qui nous inspirent. Donc il faut constamment apporter nos prières au pied de la croix. Et c'est ce qui est représenté par le gémissement, le roucoulement constant de la colombe. Et donc savoir offrir au pied de la croix l'intégralité de nos péchés passés. Voyez, pour que Dieu puisse les repardonner, de nouveau utiliser son sang pour éliminer complètement non seulement les péchés de notre passé, mais les racines même des péchés passés. Donc celui qui gémit d'être accablé sous le poids de ce corps mortel et de vivre éloigné du Seigneur gémit d'une manière agréable à Dieu. Mais il y en a beaucoup qui gémissent d'être privés de la félicité de ce monde ou d'être brisés par les épreuves. Accablés sous le poids écrasant des infirmités du corps, ce ne sont pas là les gémissements de la colombe. Vous voyez, la colombe, si vous voulez, c'est le symbole de l'unité dans la charité. Hein? Contrairement à, si vous voulez, à l'aigle, aux oiseaux de proie qui vont déchiqueter leur proie, alors que la colombe ce n'est pas un animal carnivore, elle ne va pas se nourrir chair animale vivante, elle va se nourrir uniquement de fruits, disent les pères de l'Église. Bon. Donc il faut demander cette même simplicité qui nous permet de garder la foi. Deux petits paragraphes encore avant de finir cette partie-là. Sous quelle forme devrait se manifester l'Esprit Saint pour représenter l'unité, si ce n'est sous la forme de la colombe, afin de pouvoir dire à l'Église, après lui avoir donné la paix, ma colombe est unique. ces cantiques des cantiques. Quel symbole plus convenable de l'humilité que cet oiseau tout simple et gémissant et toujours fidèle puisqu'il reste appairé à vie. Donc la sainte et véritable Trinité apparaît tout entière dans cette circonstance. Donc le Père, encore une fois, dans cette voix qui dit « Vous êtes mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le, le Fils dans celui qui est baptisé, l'Esprit Saint dans la colombe. » Et c'est au nom de cette Trinité que les apôtres ont été envoyés pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est là, au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on va voir cette première explication, en quelque sorte, de la Sainte Trinité. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que c'est de ne pas vous garder plus d'une heure. Et nous continuerons la prochaine fois, si Dieu veut. Alors, terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.